ton rapport au corps était un mot, un objet ou une expression, ce serait
« Je t'aime moi non plus ».
Corps à corps.
Corps à corps.
Corps à corps.
Corps à corps.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on donne la parole à Iris, 24 ans. Elle est atteinte de deux maladies invisibles, dont une rare. Elle vient nous raconter ses maladies, son combat quotidien et bien sûr comment cela a influencé son corps. Bonjour Iris.
Bonjour Émilie.
Est-ce que tu peux nous expliquer tes maladies ?
Oui, tout à fait. Alors j'ai deux maladies. La première, c'est une œsophagite à éosinophile. Donc c'est une maladie de l'œsophage. On me l'a diagnostiquée il y a à peu près 8 ans. Quand j'étais à la fin de mon collège. Et donc c'est une maladie qui touche l'œsophage. En fait, c'est des globules blancs qui s'attaquent dans mon œsophage. Donc c'est une maladie auto-immune. Et c'est une maladie chronique. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui reste avec le temps. Il n'y a pas encore de traitement qui permet de complètement l'arrêter. Donc voilà, il y a des traitements pour aider les symptômes, pour que ça aille un peu mieux. Et ma deuxième maladie, c'est une maladie de la thyroïde, donc c'est une thyroïdite auto-immune. Là, je l'ai depuis un peu plus d'un an, j'ai appris que j'avais ça. Et donc ça me crée plusieurs petits problèmes à la thyroïde. La thyroïde, c'est très lié avec les hormones, donc ça peut créer des problèmes de fatigue, ce genre de choses, plein de petits symptômes. Et voilà, et ça c'est une maladie que j'ai depuis plus récemment, donc je la connais un petit peu moins que l'œsophagite.
Est-ce que tu peux nous dire les symptômes de l'œsophagite ? Peut-être nous en dire un peu plus sur la thyroïde.
Donc par rapport à l'œsophagite, ça me crée différents symptômes. C'est différent chez chacun. Moi, c'est surtout des remontées acides que j'arrive à gérer avec l'alimentation, mais ça peut me créer pas mal de remontées acides. Après, il y a des douleurs à l'œsophage ou des sensations un peu bizarres à l'œsophage qui sont un peu difficiles à expliquer, mais voilà, ça crée un peu... des sensations un peu de brûlure ou de... Enfin, ça peut être différentes sensations, comme si l'œsophage se compresse un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes ? Je réfléchis. C'est surtout ça pour l'œsophage. Et des difficultés à avaler aussi, si ça c'est très important. Voilà, hein, quand je mange, etc., je peux avoir parfois du mal à avaler ou l'impression que ça reste un peu coincé. Comme en fait l'œsophage est un petit peu irrité avec l'œsophagite, ça crée des sensations un petit peu de blocage. Et après, par rapport à la thyroïde, c'est plutôt de la fatigue qui peut se créer quand la thyroïde n'est pas un bon taux d'hormones, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, surtout la fatigue et puis des petits symptômes qui ne se voient pas forcément. Donc c'est un peu difficile parfois de déceler quels symptômes sont les symptômes liés à la thyroïde. Ouais.
Comment ton quotidien il a été impacté par ces maladies ?
Alors, il y a eu plusieurs impacts sur mon quotidien. Je pense que la première, c'est que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Notamment, je fais des prises de sang à peu près tous les 3 mois. Je suis suivie par une micronutritionniste, pareil, à peu près tous les 3 mois environ. Et donc voilà, ça me fait pas mal de rendez-vous médicaux. Et ça, c'est toujours compliqué à caler dans un emploi du temps. Notamment quand on travaille, les rendez-vous médicaux ne sont pas toujours aux horaires qu'on souhaiterait. Il faut pouvoir les placer, etc. Donc ça demande pas mal d'organisation, une petite charge mentale de l'organisation de tout ça. Après, sur mon quotidien, la plus grosse charge, je pense, c'est l'alimentation. En étant suivie par une micronutritionniste, j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten et au lactose. Et donc, j'ai complètement arrêté ces aliments pendant un moment. Maintenant, je réintroduis un tout petit peu de temps en temps, je fais des petits écarts. Mais globalement, au quotidien, je fais très attention à ne pas en manger. J'ai plusieurs contraintes dans mon alimentation. Donc ça, c'est pareil, une assez grosse charge, puisqu'il faut faire bien attention à ce qu'on mange, à ce qu'on achète. Donc ça a pas mal changé mon quotidien.
Le gluten, on en parle mais c'est quoi ? C'est une protéine présente dans plusieurs céréales, comme le blé, l'orge, l'épeautre et le seigle. En France, de nombreux aliments qu'on utilise tous les jours sont fabriqués à base de farine de blé, comme le pain, les pâtes, la semoule, les viennoiseries, mais il y en a aussi par exemple dans la bière. Vous l'aurez compris, le gluten est quand même partout dans notre alimentation. Quant au lactose, lui, c'est le sucre qui est contenu dans les laits animaux, vaches, brebis, chèvres. Il y a du lactose donc dans tous les produits faits à base de lait et dans le lait, comme la crème, le yaourt, le beurre ou le fromage. Ces derniers sont obtenus par fermentation. La fermentation, c'est le procédé qui permet d'obtenir ces produits. Dans ces procédés, il y a une réaction qui utilisent le lactose, ce qui fait qu'il y en a un peu moins. Mais il reste quand même très présent, donc il faut voir en fonction de la tolérance de chacun.
Pas manger de gluten parce qu'on est un pays qui a quand même une tradition culinaire assez liée au gluten, puisque voilà, c'est présent dans le pain. Tout le monde mange du pain régulièrement, les viennoiseries, etc. En soirée, ça peut être aussi un peu compliqué parce qu'on boit pas mal des bières, surtout enfin, voilà, les jeunes, même pas que les jeunes d'ailleurs, mais la bière fait aussi partie de la socialisation en France. Donc dès qu'on est en soirée et qu'on mange pas un aliment ou qu'on boit pas quelque chose, les gens vont tout de suite se poser des questions. Bah, pourquoi tu manges pas ça, pourquoi... Et donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent être un peu intrusives parfois. Et des fois, on n'a pas envie d'en parler. Et on est un peu presque obligé parce que les gens posent des questions, etc. Mmh. Et après, on est un peu stigmatisé parfois. Le fait de manger sans gluten, c'est perçu parfois un peu comme un truc de bobo, machin. Donc, c'est parfois un petit peu mal vu. Et c'est un peu embêtant de devoir se justifier sur pourquoi on mange sans gluten.
Et c'est quoi leur réaction quand tu leur expliques?
Bah après, quand on explique aux gens, les gens comprennent, ils se demandent « Ah, d'accord !» Et il y a plus un peu, pas de la pitié, mais un peu à la fois de la compassion et en mode « Ah, ma pauvre, tu peux pas manger de gluten, ça doit pas être facile !» Souvent, la première réaction, c'est « Oh, moi, je pourrais pas !» Ou alors « Oh là là, t'as pas de chance, machin !» Et souvent, les gens me disent « Moi, je pourrais pas !» Et moi, je suis en mode bah, « En fait, j'ai pas trop le choix, quoi !» C'est pas... tout le monde peut, en fait, quand on n'a pas le choix... Oui. On le fait, quoi. Sinon, sur socialement, il y a aussi le fait que souvent, les gens vont aussi donner des conseils un peu non sollicités. Alors, sur l'alimentation, pas toujours, mais ça peut être sur... quand on parle un peu des symptômes, si on dit qu'on est très fatigué, ceci, cela. Les gens vont vite vouloir, en fait, solutionner le problème. Et ils vont nous donner des conseils. Sauf qu'ils n'y connaissent rien, généralement, comme c'est des maladies qui sont assez rares. Connaissent pas trop les tenants et les aboutissants de la maladie. Donc ils vont me donner des conseils, mais c'est des choses, moi ça me fait presque un peu rire parce que c'est un peu ridicule quand on te dit « Ah, t'as testé le yoga, t'as testé telle thérapie, machin. Bah, si ça solutionnait tous mes problèmes, ça se saurait quoi. »
Et professionnellement, est-ce que ça a un impact?
Alors ouais, dans le milieu professionnel, moi j'évite de parler de mes problèmes de santé parce que j'ai remarqué du peu de fois où j'en ai parlé, les fois où j'en ai parlé, c'est vite très stigmatisant et il y a vite beaucoup de préjugés autour de ça. Mmh. Et notamment dans le milieu professionnel où il y a cette idée qu'en fait il faut toujours être à fond, toujours être productif. Et la maladie, c'est associé à quelqu'un qui va être absent, quelqu'un qui va avoir des problèmes, qui va pas savoir gérer les choses. Et donc, moi, j'ai un peu fait ce choix d'éviter d'en parler dans le milieu professionnel. En plus, je pense que c'est totalement faux de croire qu'une personne qui a des problèmes de santé va être plus absente ou va avoir moins d'organisation, etc. Je pense que parfois, c'est le contraire. Comme on a beaucoup l'habitude de s'organiser sur les problèmes de santé, etc., et ben justement, on va être des personnes qui savent bien faire attention à certaines choses. Donc ouais, j'évite d'en parler dans le milieu professionnel pour ne pas susciter de discrimination ou autre.
Et le fait que ce soit invisible, est-ce que tu penses que c'est plus dur à accepter par exemple, pour le regard des gens, est-ce que tu penses que tu es pris, est-ce que ta maladie est vraiment prise en compte ou tu penses qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient juger ou limite presque te dire que tu simules vu que quand c'est invisible, c'est tellement dur de...
Oui, moi ça m'est arrivé notamment au début où j'avais des problèmes de santé, où les gens avaient du mal à comprendre en fait que j'avais des problèmes de santé. Et souvent quand j'en parle au départ, les gens ont du mal à y croire ou à se rendre compte en fait, parce que comme ça se voit pas sur moi et que je peux parfois faire comme si je n'étais pas malade, les gens ne comprennent pas forcément et les gens sont très peu sensibilisés sur le fait que bah, y a plein de maladies qui sont invisibles et donc ils pensent qu'en fait une maladie ça se voit forcément, une personne qui est fatiguée, ils pensent que ça va se voir sur sa tête, que quand on a mal on va forcément... le montrer, alors que c'est faux. Et du coup, effectivement, c'est difficile pour les gens parfois de comprendre que bah, on est malade, on a des difficultés. Et donc moi, ça m'a aussi un peu... j'ai pris plus de temps à accepter ma maladie parce que les autres autour de moi, même mes proches, mes parents, etc., avaient du mal à comprendre en fait que j'étais vraiment malade et que c'est sur le long terme, comme c'est des maladies chroniques.
Juste avant, on parlait de ton quotidien. On a parlé de la charge que c'était au niveau alimentaire, mais on n'a pas parlé, par exemple, est-ce que ça a été facile de manger sans gluten ? Parce qu'on a expliqué qu'est-ce qu'était le gluten et le lactose, mais on n'a pas. Est-ce que c'est si facile ? Est-ce que c'est accessible ? Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver ? Et puis au début, du coup, tu as dit que c'était au fin de ton collège, donc avec tes parents, par exemple, est-ce que ça a été facile d'adapter l'alimentation ?
Alors au début, ça n'a pas été facile. Donc c'est un peu plus tard que mon diagnostic que j'ai su que j'étais intolérante à différents aliments. J'étais déjà dans les études quand j'ai appris ça. Et c'est pas facile parce que déjà ça coûte cher. Tout ce qui est produits sans gluten qu'on achète en supermarché, etc., ça va être plus cher que les produits qui ont du gluten généralement. Et puis il y en a vraiment partout, donc il faut prendre des nouvelles habitudes, c'est ça le plus dur je pense. Après, une fois qu'on a les habitudes, ça va. Par exemple, moi quand je vais faire mes courses, je lis toutes les étiquettes et c'est quelque chose que je fais très naturellement. Et si je vais faire les courses avec quelqu'un, je me rends compte qu'en fait les gens font pas ça. Et pour moi, c'est l'inverse qui, du coup, est devenu bizarre. Je me dis, ah, en fait, ils lisent pas les étiquettes. Moi, je lis toutes les étiquettes en allant faire les courses. Après, au fur et à mesure, on s'adapte. On sait quels aliments on peut manger, pas manger beaucoup plus facilement. Et je trouve que ça s'est amélioré au fil des années. Voilà, moi, ça va faire quelques années que je mange principalement sans gluten et sans lactose. Et il y a de plus en plus de possibilités, même à l'extérieur, dans les restaurants, dans les cafés, etc., ça commence à se démocratiser un peu plus. Après, je trouve que dans d'autres pays, ça se démocratise plus facilement qu'en France, mais ça commence à être déjà mieux quand même.
Du coup, tu as des traitements ?
Alors, je n'ai pas de traitements médicamenteux pour l'instant, comme j'ai réussi à beaucoup améliorer mes symptômes avec l'alimentation. Mais par contre, je prends des compléments alimentaires parce que je suis suivie par une micronutritionniste, donc on travaille sur... les micronutriments, etc. Et j'ai certains compléments alimentaires, mais par l'alimentation, j'arrive à limiter vraiment beaucoup mes symptômes sans avoir besoin de prendre des médicaments.
Et ça doit être quand même une charge tous les jours de penser. Déjà, tu dois modifier ton alimentation. Et en plus, tu dois penser à tes compléments qui ne doivent pas être pris aux mêmes heures dans la journée, qui doivent être différentes selon tes besoins.
Effectivement, c'est une assez grosse charge mentale. Toute cette question des compléments, de l'alimentation, parce qu'il faut toujours réfléchir. Parfois, on change de complément alimentaire entre différents rendez-vous parce que tel taux de telle chose va mieux et donc on n'a plus besoin de ce complément mais d'un autre, etc. Donc c'est au quotidien, ça demande quand même, ça me prend un certain espace mental de devoir réfléchir à tout ça. Et j'ai moins de place pour l'imprévu par rapport à mon alimentation. Je ne peux pas me dire, je verrai à la dernière minute. Ça m'arrive parfois de le faire, mais du coup, c'est toujours plus compliqué. C'est les moments où on fait plus d'écart, où on fait moins attention à sa santé. Donc quand je fais vraiment bien attention à ma santé, je dois bien prévoir tout ça.
Ce qui nous intéresse dans ce podcast, on y arrive à la fameuse question, c'est comment ces maladies ont influencé ton rapport au corps au fil du temps.
Alors ça a été c'est un peu particulier, j'ai un peu une relation amour-haine avec mon corps par rapport à ces maladies. D'une part, j'en ai beaucoup voulu à mon corps parce que c'est des maladies en plus auto-immunes, c'est mon corps qui s'attaque lui-même. Et c'est mon corps qui ne fonctionne pas bien de l'intérieur. Donc j'en ai beaucoup voulu de ne pas fonctionner correctement. Beaucoup d'incompréhension sur pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça se passe comme ça. Donc ça, c'est pas facile, ça crée un peu de haine envers mon corps. Et à la fois, ça m'a permis d'être plus reconnaissante de ce qui fonctionne bien dans mon corps, de l'importance en fait que c'est d'avoir un corps en bonne santé, de prendre le temps de faire vraiment attention à ma santé, à mon alimentation. Je me suis rendu compte à quel point c'est important de faire attention à son corps. Et donc j'ai une posture beaucoup plus, je pense, bienveillante envers mon corps depuis ça. Donc c'est à la fois de l'amour, de la haine selon les moments.
D'où le « je t'aime moi non plus ».
C'est ça, d'où le « je t'aime moi non plus » qui représente bien la manière dont je me... ma manière d'être par rapport à mon corps.
Et est-ce que ça a influencé de comment tu te vois, peut-être le fait d'avoir des maladies ou...
Je pense que ça a influencé pas mal mon apparence dans le sens où, comme je devais beaucoup me concentrer, et même toujours maintenant, sur mon corps à l'intérieur, voilà, tout ce qui se passe au niveau de mon alimentation, mes sensations intérieures, parce que mes maladies, elles sont vraiment à l'intérieur, c'est pas du tout sur l'extérieur de mon corps. Et du coup, je me suis mise moins de pression, je pense, sur mon apparence physique. Voilà, par exemple, moi, je ne m'épile pas et ça ne me dérange pas du tout. Le regard des autres, ouais, je me sens beaucoup moins jugée par le regard des autres. Ça me dépasse un peu parce que ce qui compte, en fait, pour moi, c'est plus que mon corps fonctionne bien, que je me sente bien dedans. Et donc, je ressens beaucoup moins ce besoin de correspondre à des clichés, à des choses qu'on essaye de nous faire correspondre quant à l'apparence.
Et tu penses que c'est tes maladies, c'est le fait d'avoir été malade qui t'a aidé à t'affranchir de tous ces diktats?
Alors je pense que c'est pas la seule chose. Je pense que de manière générale, ma réflexion sur les diktats qu'on nous imposait a fait que j'avais envie de me libérer de ça. Mais je pense que ça m'a aidé en tout cas, mes maladies, à être un peu plus indulgente avec moi-même et à me dire en fait je peux pas m'imposer des choses en plus à mon corps, je lui impose déjà beaucoup. Il vit déjà beaucoup de choses difficiles, je vais pas en plus lui imposer de l'épiler, de faire ceci, cela. Je pense que du coup, ouais, ça m'a aidé à me dire, bon, il vit déjà beaucoup de choses difficiles, on va pas encore le faire travailler et passer du temps à toujours se préoccuper de l'apparence.
Et aujourd'hui, du coup, tu es comment avec ton corps?
Bah, je me sens plutôt bien dans mon corps. Dans mon apparence déjà, je me sens très bien, je suis plutôt à l'aise avec ça. J'ai toujours voilà, des moments où j'en veux à mon corps de ne pas fonctionner correctement, où je me dis mais pourquoi il n'est pas capable de fonctionner correctement. Je suis quand même jeune pour avoir des problèmes de santé. Donc c'est difficile de se dire mais pourquoi moi à 24 ans je galère avec mon œsophage, ma thyroïde. Et c'est rigolo aussi parce que du coup j'ai pris conscience de plein de parties de mon corps. Je pense que pas grand monde se dit « Ah bah mon œsophage fonctionne comme ça, oh bah ma thyroïde, moi je savais même pas où c'était la thyroïde avant de découvrir mes problèmes de santé. » Donc j'ai beaucoup plus de conscience du corps aussi et donc je pense que je suis plus à l'aise aussi avec.
Bah, merci beaucoup Iris. Et avant de nous quitter, je te laisse le micro si tu souhaites passer un message à des personnes qui, comme toi, ont un handicap invisible. Ou un ou des handicaps invisibles d'ailleurs, ou un message plus général.
Alors donc mon petit message ce serait que en fait on sait pas ce que les gens vivent au-delà de leur apparence. Les gens ils peuvent avoir l'air très bien et vivre des choses très difficiles. On sait pas en fait ce qui peut leur arriver. Une petite anecdote par rapport à ça, c'est que au moment où j'étais le plus malade par rapport à ma thyroïde et où j'étais très très fatiguée, c'était très très dur. Et ben c'est un peu la période où je m'habillais le mieux. J'étais toujours bien habillée, très apprêtée. Et donc, je pense que ça se voyait encore moins, en fait, que j'avais des problèmes de santé. Et donc, pour moi, il faut, faut faire preuve de bienveillance envers les gens parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur et pas, un peu lutter contre les préjugés qu'on a, en mode, quand on voit quelqu'un, on sait comment il est. Et pour les gens qui vivent des maladies chroniques, des maladies invisibles, des maladies rares, etc., pas hésiter à essayer d'en parler, de créer du contact. J'en profite pour parler du fait que j'ai une petite page Instagram sur l'œsophagite à éosinophile que j'ai créée parce que je n'arrivais pas à trouver des gens en fait qui avaient une œsophagite à éosinophile. Je ne savais pas où les trouver et en créant cette page il y a pas mal de gens qui m'ont contactée. On a pu se mettre un peu en lien par rapport à cette maladie et donc je pense que c'est important d'en parler aussi. On n'est pas obligé, parfois on n'a pas envie d'en parler, mais en tout cas quand on a envie d'en parler, de trouver des gens qui vivent la même chose. Et ben voilà, pas hésiter, c'est un des points positifs des réseaux sociaux pour le coup, ça permet de mettre en contact des gens qui peuvent être loin. Et comme on n'est pas si nombreux que ça à vivre certaines maladies qui sont rares, et ben ça permet de se retrouver.
Merci beaucoup Iris et bon courage à toi.
De rien.
Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Emilie Chéry, Chery, diététicienne, de vous abonner et de suivre ce podcast sur les différentes plateformes comme Deezer, Spotify et Podcast Addict.